Tov, Shuv, on est le mercredi 2. On est à notre troisième cours ce matin. Donc là, c'est nos sages racontent. On a fait, juste avant, une série de cours que je vous conseille vivement de regarder qui s'appelle justement la grandeur de la prière, qui sont numérotés sur les enseignements essentiels de Rabbi Nachman de Breslev dans le Sefer Amidot. Et là, on est avec nos sages racontent pour Bezrat Hashem, donc mercredi 2 et le 16 déjà du mois de Kislev. Et pour la Tzlacha, une bonne alia, une grande réussite, une santé, une très très grande parnassa pour Atu Chaya Bat Beye Shelbia Bezrat Hashem. Et ça, c'est de la part de ses enfants. Bracha Rebacha Batzlacha Bechol Maseadea. Refoua Shema pour tous les malades d'Israël, Leilou Nishmat comme était Israël, et surtout une grande Atzlacha pour tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et alors, on est parti pour un petit quart d'heure pour ce chiour de la journée. À propos de nos sages racontes. Donc nous, la différence, comme je l'ai déjà expliqué, on ne suit pas la paracha de la semaine, on suit le seder de nos sages racontes. Yaakov, maintenant, est sur le point de partir, donc c'est déjà la semaine dernière. Birkat Yitzhak ve Rivka. Pour partir, on apprend une chose essentielle quand on veut réussir sa vie, c'est toujours prendre en tant qu'enfant la bracha de ses parents, en tant que mari, la bracha de sa femme, et si c'est la femme qui part pour, je sais pas quoi, la bracha de son mari. Les enfants qui partent, prenez toujours la bénédiction de vos parents. Toujours. Pourquoi ? Parce que non seulement la malédiction a souvent des attraits négatifs et elle influence, mais la bénédiction de nos parents est une source de réussite. Kasher Nodal Yitzhak. Mizimato Shel 1.
La femme ou les parents ?
J'ai pas compris.
Qu'est-ce qui est plus important, la bracha de la femme ou des parents ?
Ben, quand il est marié, sa femme, quand il est. Ses parents. Le mieux, c'est les trois. S'il peut avoir la bracha de ses parents et de sa femme. C'est génial. Alors, si tu mets les beaux-parents, bon, alors là, c'est un miracle, Salomon. Un miracle. Hein? C'est très important de mettre. Ne soyez jamais mes alzélim. Quelqu'un m'a raconté qu'il est sorti de chez lui, il est tombé sur une personne très pauvre comme ça. Il lui a demandé une pièce. Et il lui a donné une pièce. Il lui a dit, sois béni sur tous tes chemins. Alors je lui ai dit, tu vas avoir une très bonne journée. Grâce à Dieu, il a explosé au niveau des chiffres sa journée. Il ne faut jamais être mésalzèle, il ne faut jamais dénigrer l'importance. Comme par exemple une maman envoie ses enfants à l'école, maman, qu'elle les embrasse, qu'elle les bénit, qu'elle leur réussisse, vraiment faites attention, que Dieu vous protège. Et quand ils partent, qu'elle prie pour qu'ils n'aient pas de mauvaise fréquentation, pour pas qu'il arrive quoi que ce soit. Les attachements, c'est important. C'est très important. Que vous priez pour que votre mari réussisse dans son travail, que le mari prie pour que sa femme soit sereine, qu'elle ait tout ce qu'il lui faut. La malo. Si on ne fait pas pour ceux qu'on aime, alors pour qui on va le faire, je n'ai pas compris. Un mec, il m'a dit, moi, je prie pour tous les jours pour ma femme, pour qu'elle maigrisse. C'est dans ton intérêt ou c'est dans le sien? Noda, noda. Kasher noda le Yitzhak mizimato shel Esav. Quand Yitzhak a entendu, ça va, vous voulez un café, une cigarette? Vous pouvez y aller? Quand Yaakov, donc il a entendu que Esav voulait faire du mal, karal Yaakov benovit sivaoto. Il a appelé, il lui a dit, lotikarisham ibenot kenaran. Tu ne prendras pas une fille de Kenaan. Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque de Kenaan? On en a déjà parlé. Pourquoi on ne peut pas épouser une fille d'ici? À l'époque, aujourd'hui, grâce à Dieu, les Israéliennes sont des femmes merveilleuses. Mamache. Et il y a du bon et du mauvais partout. Hein. C'est des filles françaises, marocaines, tunisiennes, algériennes qui sont... on dirait que, tu sais, israéliennes sont dures. Ah ouais, ben, je peux vous promettre qu'il y en a d'autres aussi qui sont dures et qui ne sont pas d'Israël. Ce sont des caricatures, des espèces de complots comme ça qui ont été faits sur la carte d'identité d'Israël. Au contraire, les femmes. Okay. C'est une culture, il faut apprendre à connaître les Israéliennes. Mais en tout cas, à l'époque, les filles de Kenaan, pourquoi est-ce qu'elles étaient problématiques? Parce que Ishritu et Darkam, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les filles de Mésopotamie, par exemple, dont on parle dans la Torah, elles aussi faisaient de la Vodazara, mais elles avaient de la moralité. Et il y a un klal. Tout celui qui n'est pas dans la Torah, mais qui a un bon cœur, ou qui a de la moralité, sofo l'arzor b'tshuva. Mais qui ne fait jamais teshuva? Sofo l'arzor b'tshuva, ça veut dire il finira par faire teshuva. Mais qui ne fait jamais teshuva? Celui qui non seulement n'est pas sur le chemin de la Torah, mais en plus il est immoral. Alors à partir du moment où il n'a pas de moralité, il n'a pas de teshuva possible. Parce que pour pouvoir emmener la Torah sur un chemin, il faut qu'il y ait un chemin. Le chemin, c'est le savoir-vivre. Et à l'époque dont nous parle Tanakh, les filles qui vivaient en Eretz Israël, des sept peuplades, étaient des filles totalement immorales. Il n'y avait aucune moralité à cette époque. Et donc, rien à construire. Ce n'est pas un jugement ou un préjugé sur la situation, c'est un état de fait. Je me souviens que Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik Kadosh Vracha, m'avait dit qu'une personne qui a un bon cœur ne partira jamais de ce monde sans faire teshuva. Je parle vraiment de ce qu'est un bon cœur. Parce que quand on a un bon cœur et de bonnes midot, ça ressemble à un champ défraîchi, mais tu as un champ. Il suffit de l'arranger, de semer, de labourer, d'arroser, et tu verras avec le temps de très beaux fruits grandir de ce champ. Ce qui est dommage, c'est quand on a du savoir-vivre et qu'on n'a pas de Torah, on ressemble à un champ qui est magnifique, mais qui n'a jamais été cultivé. C'est le savoir-vivre sans la Torah. Quand on a et du savoir-vivre et de la Torah, car l'un est indissociable de l'autre, on a et le champ et le verger qui va avec. Et donc les fruits juteux, sucrés, qui nous donnent toute la joie des yeux et le plaisir du goût. C'est bien. Ça sort les deux. Donc ici, dans le cas échéant, Yitzhak et Rivka disent à Yaakov, ne prends pas une femme de Kenaan. Pourquoi ? Parce que ces femmes-là sont mouchhatot bedarkan. Elles étaient comme à l'époque du déluge. C'est bien. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle Mouchratot Bedarkam ? C'est qu'à cette époque, une femme, enfin à cette époque, ça vous fait rire, parce qu'on est apparemment retourné un peu dans cette époque. Je vous donne un petit exemple. Une femme voyait un homme marié, avec ses enfants, marié, il aimait sa femme. Elle a tout fait pour le prendre, et elle l'a pris. Elle n'hésitait pas à se montrer en public avec lui. La femme en versait des larmes, l'épouse, et elle lui disait en face, eh ben, si tu avais gardé ton mari, il ne serait pas chez moi maintenant. C'est-à-dire, elle justifiait par l'immoralité, en se mêlant des choses dont elle n'était même pas au courant, et lui disait, eh bien, pas plus fort que l'amour, eh bien, c'est comme ça. C'est-à-dire, elle n'a pas de problème de détruire une famille, de laisser les enfants sans papa à la maison. Pas de problème de conscience. Pas de problème de moralité. Alors que la Torah, dans les 10 commandements, un des commandements qui intervient de façon assez virulente, c'est « Lotachmod eshetrecha ». Ne convoite pas le couple de l'autre. Très souvent, je dis... Ok, il y a de l'amour. Enfin, vous pensez, parce que tout amour qui vient de la citra hara, tout l'amour qui vient des forces du mal, tout amour interdit, comme une femme qui est divorcée, qui veut se marier avec un Cohen, et ils s'aiment, zelonachon, c'est une erreur. Ils ne le savent pas, ils sont sincères quand ils disent qu'ils s'aiment, abal zelonachon. Car Dieu a créé l'amour qui est le sentiment le plus fort de la création du monde. Et il n'a créé l'amour que dans le bien. Seul l'amour qui est permis, et le vrai amour. Tout le reste, c'est du Canada Dry. C'est du Tmenik. C'est du semblant d'amour. On croit que c'est une illusion. Zelonachon. Zelonachon. Tout amour qui n'est pas permis par la Torah est automatiquement un amour falsifié. Sachez-le. C'est dans votre tête, ça devient une obsession, une addiction. C'est tout ce que tu veux, mais ce n'est pas de l'amour. Zelonachon. Même si tu me dis, mais pas du tout, n'importe quoi. Moi, j'étais avec quelqu'un, bon, dommage qu'il n'était pas juif, mais je l'ai aimé, mais personne ne pourra comprendre. Zélo Nachon, le Rabbi Lubavitch, le Rabbi tous les tzadikim, tout ce que j'ai lu, ils te disent Zélo Nachon, Lo Nachon, Lo Nachon, Zélo Nachon. C'est du semblant d'amour. Ah ben, c'est pas de l'amour. Pourquoi ? Parce que ta neshama n'a pas été créée pour ça. C'est comme si tu prends un technicien, tu lui donnes un ordinateur, et il te dit, là-dedans, tu peux mettre toutes les données du Pentagone. Je vais rigoler, il va te dire, non, je une minute. Cet ordinateur, même si tu les mets toutes, il ne peut pas le comprendre dedans. L'âme du juif ne peut pas comprendre un amour qui n'est pas cachère. Parce qu'il a été créé, dit le Rabbi Lubavitch, que pour le cachère. C'est pour ça que l'âme crie, elle est malheureuse. Ton cœur de chair, tes yeux de chair, désirent, veulent, mais ton âme, elle ne veut pas. Ça, je te l'affirme. Et le vrai amour, c'est celui qui vient de l'âme. Chez Nehemar, ki nafsho kshura benafsho. Mon âme est attachée à la sienne. Veillou le basar echad. Quand un homme et une femme se marient, Kedat Moshe Israël, les âmes s'entremêlent. Les âmes représentent l'amour et pas le corps. Le corps, il a des pulsions animales, il a ses besoins, on le respecte, mais c'est pas de l'amour. C'est la passion, c'est ce que tu veux. C'est le coup de foudre. Le coup et foudre. C'est tout. Rien d'autre. La reine, Ezrat Hashem, est impératif de comprendre que l'amour qui est permis, c'est le seul amour qui est valable. Et la preuve en est, les plus beaux amours sont ceux qui se fabriquent. Quand un homme rencontre une femme en chidour, ils ne se connaissent pas. Alors tu te vois une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, puis après tu prends ta décision. Mais tu n'es pas encore amoureux. Tu aimes bien, tu t'attaches. Après tu te maries et tu apprends vraiment à te connaître. Parce qu'on connaît la personne qu'après le mariage. Vraiment. avant le mariage, jamais un rose, jamais un paix, jamais il va pas bien, jamais tout, nickel. Le mec, toujours parfumé, les dents blanches, incroyable. Incroyable avant le mariage. Les cils, la femme, bien, tout, nickel. Après le mariage, c'est... Je sais pas, c'est... Mais elle est où la fille d'avant? Il est où le mec d'avant? Les plaques de chocolat, c'est devenu du Nutella, c'est Hachem Rahim. Tout change avec le temps. Hein? On l'a connu, il avait des cheveux sur la tête, pas un poil sous le menton. Maintenant, il a des poils sous le menton, il n'a plus de cheveux sur la tête. C'est le mariage. Elle m'a la saute. Alors, l'amour, il se concrétise. C'est pour ça que les plus beaux mariages sont ceux où l'amour vient de la doucha. On ne s'est pas touché avant. On ne s'est pas goûté avant. On s'attend. On a des hormones. On a hâte de se connaître. C'est très, très sympathique. L'amour, quand il est propre, quand il est alpi alaha, quand il est fait comme Dieu le demande, il construit des couples à merveille. Mehmet, à merveille. Et par contre, moi qui suis dedans depuis juste 22 ans sur le terrain à marier des gens et de les suivre au niveau des Shlambait et ainsi de suite, la majeure partie des couples qui divorcent, la majeure partie, c'est plus de 70% sont les gens qui ont couché ensemble avant, qui ont vécu ensemble avant, qui... Ils ont tout fait avant. Ils ont pris toutes les garanties. Et ça aboutit à une grosse guerre. Par contre, dans le monde religieux, je ne dis pas qu'ils sont tous heureux, attention, il y a certainement des femmes qui auraient bien voulu divorcer, mais parce qu'ils ont peut-être honte, mais c'est un chiffre très minime, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très très minime. Mais je vis avec eux et je les fréquente de très 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 près, on n'a rien qu'ici 30 Avrechim, 54 à Jérusalem, et j'en connais aussi à Bnei Brak, et j'ai plein d'amis aussi à Ramoth et à Arnof, et grâce à Dieu, toi-même tu as un cousin qui est dans la Torah, ils vivent très bien, et quand tu parles avec les femmes, elles ne sont pas du tout malheureuses, et les femmes en fait quand elles se parlent, c'est des femmes épanouies. Pourquoi? Parce qu'ils ont fabriqué cet amour à travers le biais de la Torah. Tandis que les femmes d'ici, c'était un intérêt, les femmes de Canaan, c'était l'intérêt de l'égocentrisme par excellence. Tout tourne autour d'elles, c'est plus tu fais de vacherie, plus tu es moral, et ainsi de suite. Ren Omer Lanou à Chazal nous disent Si va auto, lotika risham benot Canaan, ki im benot Lavan, achi imecha, car va dans la maison de Lavan, achi imecha. C'est vrai que la famille Betuel, c'est une famille qui est très spéciale. Parce qu'on voit que Zilpa et Bila, c'était les nièces de Rivka, donc d'un autre frère de Lavan apparemment. Okay. Très bizarre cette famille. Que Zilpa et Bila étaient deux grandes satkaniotes. On a vu que la mère de Rivka, qui s'appelait Déborah, Dvorah Menika, hein, c'est, ben, sa nourrice. Ouais. Dans mon livre, c'est marqué que c'était la mère de Rivka. Et on a vu que c'est une sadéquette parce qu'elle a... Une fois qu'elle a perdu Betuel, elle a préféré suivre le chemin de la Torah, Tamot, et si la Torah lui fait l'éloge de sa mort, ça veut dire que, même si c'est une allusion d'Irachi sur la mort de Rivka, donc Dévora est morte le jour, la mère est morte le même jour que sa fille. Hein. Mais on voit qu'elle est morale, elle n'a pas voulu rester là-bas, elle a voulu préférer rentrer dans le chemin de la Teshuvah. Donc c'est vraiment une famille très spéciale, et on voit qu'ils ont du savoir-vivre. Kira'a, pardon, Mebenot Kelavan, Achi Imecha, et regarde bien ce qu'il lui dit à Kov. Va dans la maison de Lavan prendre femme là-bas uniquement car elles ont du savoir-vivre. Seulement, fais très attention de ne pas quitter le chemin de la Torah. Et cet enseignement-là, il a donné pour toutes les générations, à tous les couples qui se marient. Très souvent, on a fait un chemin de yeshivot et on a avancé. Et on prend une femme qui n'a pas fait le séminaire ou qui n'a pas assez de Torah en elle. Et petit à petit, il vient Yitzhak qui lui dit « Attention, le mariage, oui, aval n'oublie pas le chemin de la Torah et des mitzvot. Reste sur le chemin de la Torah. » Mais fais attention de ne pas fréquenter, bizarre, on parle de ça, la fréquentation, les gens de cette terre-là, car ils sont tous ramaïm, ils sont tous tricheurs, moqueurs et arnaqueurs. Comme on l'a vu pour le mariage, ils ont tous donné un gage, ils savaient que c'était là, ils ont, en plus ils se moquaient. Qu'est-ce qu'ils ont chanté le mariage de Yaakov? Laïla lalé, allé, 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 allé. Alors lui, il entendait allé, 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 c'était lé, allé, a. Kim ta'ase kemaasem, tavi alecha ra'agdola. Et il met Yitzhak en garde son fils, car si tu vas sur le chemin des habitants de Kena, de là-bas, de cette contrée, alors tu vas tirer sur toi de grands malheurs. Il le met en garde contre l'assimilation. N'oublie pas. C'est pour ça que Yaakov est le premier juif qui crée le ghetto juif. Il s'éloigne en respectant les autres, mais Notre quartier, il est Shomer Shabbat. Notre quartier, il dit pas de vulgarité. Notre quartier, avec des femmes qui sont pudiques. Pourquoi ? On se protège. Jusqu'à ce qu'est venu grand Babaou, j'ai nommé Napoléon, et qui a ouvert tous les ghettos en disant « Vous êtes une religion qu'on respecte, on va vous créer le consistoire, vous aurez des portiers avec le chapeau de Napoléon, et il nous a assimilés jusqu'à aujourd'hui. Complètement assimilés. « Zechor b'shach tagi al Haran, Hirosh el Havan. » Donc, souviens-toi, jusqu'à l'heure où tu arriveras à Haran, la ville de Lavan, « L'otasur minaderech atova vayeshara. » Et donc, avant de le quitter, Yitzhak prévient Yaakov en lui disant « Ne quitte jamais le chemin de la droiture, sache que il n'y a rien à prendre dans les forces du mal. Tout ce que peut attirer le monde obscur et ses tentations ne sont que de l'illusion. Ne tombe pas là-bas, reste sur le chemin de la Torah. Et pour y arriver, il faut que ton cœur soit occupé à Dieu. Donc tu travailleras à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Et ainsi donc, tu hériteras de la bénédiction de ton grand-père Abraham sur toi. Et cette bénédiction, si tu réussis à être sadique, viendra jusqu'à la fin des temps, sur toute ta descendance. Et encore une fois, quelque chose, une sonnette d'alarme. Quand une personne, en 2020, fait teshuva, il n'apporte pas la bénédiction sur sa vie à lui seulement, mais sur toute sa descendance. N'oubliez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le sens contraire, quand une personne dit « Ouais, écoutez, moi j'ai fait teshuva, franchement, j'en ai marre, je reviens en arrière », il fait faire un retour en arrière à toute sa descendance. Je donne un exemple concret de la vie. Quelqu'un est en pleine phase de teshuva, il veut se marier avec qui d'après vous? Une fille qui est shomeret mitzvot ou pas? Bien sûr, il est en pleine teshuva, il ne veut pas lui aller faire shabbat sa femme à la plage. D'accord? Ce qui fait que s'il prend une fille qui a du sang rempli de Torah, où est-ce qu'ils vont éduquer les enfants? Sur la Torah. Donc ils sont sur le même diapason. Ainsi donc, toute la descendance va dépendre du choix de ce que tu vas faire. Un mec qui il est dans la Torah, il quitte la Torah. Il va se marier avec qui? Une charédite? Une traditionnaliste fervente? Non. Il va prendre une femme qui lui correspond, c'est normal. Imagine un Kipas Ruga qui épouse une Lubavitch. Tu vas où? Je vais à New York. Ah non, faut pas sortir d'Eretz Israël. Ouais, mais c'est la Iloula du Rabbi. Ouais, mais nous, on est Chabad. Tu vas pas t'en sortir. Chabad, Chabad. C'est dommage qu'on en soit là, mais. L'autre, elle a épousé un Breslev. Je fais un mariage comme ça. Je lui dis, tu sais qu'il va tous les ans, il est à Ouman. Hein. Il dit, non, pas tous les ans. Il dit, ah, chérie, je te l'ai dit. Par contre, un Breslev qui prend une Breslevite, s'il ne va pas au Man, il se prend des coups de bâton, le mec. Là, tu vois la différence? Donc, on épouse un petit peu, comme il y a marqué d'ailleurs, épouse, il y a un proverbe qui dit, épouse une fille de ta rue. Ron, un bon Tunisien qui épouse une bonne Tunisienne, ça fait des gros beignets à l'huile. Baruch HaShem. Et ils se comprennent dans le langage, dans la culture, dans... Important. Le choc des cultures dans le mariage provoque beaucoup de dégâts. Quand on n'a pas la sagesse d'apprendre la culture de l'autre, d'où il vient, comment il avait l'habitude, quels sont ses plats, et tout ça, c'est chaval. Il faut apprendre, il faut respecter tout ça. Et donc, quand tu viens et que tu fais tes chouvas, c'est en même temps à toute ta lignée que tu fais cet effort. C'est qu'une femme qui porte le kissou, Baruch HaShem, il faut qu'elle sache que non seulement elle couvre sa tête, mais elle couvre la tête de ses enfants et de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. En réalité, il n'y a même pas besoin de tenir longtemps. Il faut 3 générations et ça tient pour toujours. Donc, c'est que toi, tu fais bien, bien tes chouvas. Tu éduques tes enfants bien, bien dans la Torah. Tu verras, est-ce que tes petits-enfants sont bien, bien dans la Torah? Le reste, c'est une promesse de Dieu que ça tiendra. Chuta meshulash lo bimera inatek. C'est le proverbe. Zéou. Donc, tu multiplieras, te béniras sur tous tes chemins, sur cette terre. Mevorar bebanim mamon beshem tov. Et qu'est-ce que veut un homme sur terre? Il lui dit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la santé? Il veut une grosse parnassa, il veut une très belle femme. Sache que si vraiment tu es dans la Torah, tu auras tout ça. Et c'est ce qu'il lui dit à la fin dans le Midrash. Qu'est-ce qu'un homme il cherche dans ce monde? Les honneurs. Celui qui est dans la Torah, les honneurs lui courent derrière. Celui qui est dans la Torah, l'argent lui court derrière, les gens veulent soutenir. Je ne parle pas d'un. Pas vraiment un mec qui s'est vraiment investi. On a vu le Rav Shteman. Combien de riches sont venus lui proposer les plus belles maisons de Bnei Brak? Lui, il ne les a pas voulu. Le Rav Obadiah Yosef, il n'avait pas de paire de chaussures. Il se prêtait une paire pour plusieurs enfants. Ouais. La Volvo, on lui ouvre la porte. Enfin, ils sont pas après ça. Ils sont pas après ça. Le Rav Lubavitch, sur un seul mot, il aurait pu être l'homme le plus riche du monde. Mais il ne court pas après ça. Mais celui vraiment qui se met dans la Torah, mais vraiment de tout son cœur, pour servir Hachem, sachez qu'il n'a pas besoin d'y aller. Moi, je vois mon Rav, le Rav Garbian, il était dans un 3 pièces. Ils ont construit un appartement alors que je souhaite un palace, Bléanera pour lui. Les fêtes de Soukhot, normalement tu vas choisir le Etrog, le Loulav, ouais. Deux semaines avant la fête de Soukhot, il a une table remplie des meilleurs Etrogim, des meilleurs. Chacun, il vient, Vodrav, je voulais vous l'offrir, Bon, il va l'acheter, mais il n'y a même pas besoin de se déplacer. La Torah, les honneurs te courent derrière. Alors on va pas faire la Torah pour ça, hein, c'est évident. On va pas savoir la Torah. Bon, regarde, je vais faire Tchouva, Dieu. Alors tu m'envoies l'oseille, la gonzesse. Hein, tu m'envoies tout ça et moi je m'occupe de la Torah. Ok, ça marche entre nous. Non, c'est pas un contrat qui marche comme ça. Même si la Mishnah nous dit Kol haomed et la Torah, sauf le kamer beosher. Celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans l'opulence. Mais c'est pas un but en soi, mais c'est un état de fait en soi. C'est un état de fait. Rabbi Akiva était très pauvre. Il est devenu Rabbi Akiva, il est devenu très riche. Rabbi Eliezer était très pauvre. Il est devenu Rabbi Eliezer Agadol, très riche. La Torah, elle est un aimant pour toutes les brachot. C'est ce qu'il dit. Il lui dit, si on avait plus confiance en l'étude de la Torah et qu'on s'investissait vraiment dans l'étude de la Torah, sans aucun doute, ça ne t'empêche pas d'aller travailler. C'est bien ce que je vous dis. Ça ne t'empêche pas de donner 2-3 heures par jour à un travail. Ça ne t'empêche pas de grandir. Mais sache que dans la Torah, il y a toutes les brachot que tu puisses demander. Que jamais les forces du mal te donneront. Parce que quand elles te les donnent, les forces du mal, ouais, quand les forces du mal te font grandir dans ta société, que tu gagnes une tonne d'oseille, tu as déjà 3-4 maîtresses. Tandis que dans le monde, dans la Torah, quand tu grandis, c'est avec la sécurité que ta famille vit dans le shalom, dans l'amour, la sérénité et l'honnêteté.
Ken. Vous expliquez le fait que Jacob demande des biens, des produits, etc. Hachem, mais c'est une gauche de la dixième.
Quelque part. Il n'a pas dit ça. Mechila, professeur Yakar, il n'a pas dit ça. Il dit. Beged l'ilvosh velahem l'echol. Donne-moi un vêtement pour m'habiller. Et du pain, je m'explique. Et du pain pour moi. Maintenant, tu poses une question très profonde. Moi, celui-ci, en fait, compte, il dit ouais, alors tu me donnes beaucoup, je te donnerai du maaser. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire à Dieu, parce qu'il faut comprendre quelque chose de très profond à propos du maaser que je vais vous dire maintenant. Il dit à Dieu maintenant, si tu vois en moi une personne capable de sanctifier les nitsotsot, c'est-à-dire les étincelles qui se trouvent dans la matière, dans l'argent, dans les biens, peu importe. Alors, tout comme on fait la Brit Mila pour retirer le prépuce, de la même façon, moi, je serais prêt à relever ou à prélever ce qu'il faut. Donc, si tu as vu un homme en moi qui est capable d'être l'homme que tu veux pour que, à travers cette richesse que tu vas me donner, prélever le maaser, et c'est ce qu'il va avoir, puisque des trois avots, on a vu que Yaakov sera le plus riche, beaucoup plus riche qu'Abraham et que Yitzhak, lui dit, alors je prendrai sur moi la misa du maaser. Aser va aser et noulach, je prélèverai. Mais pourquoi on prélève le maaser comme on prélève la trouma, ce mérite qu'on a extraordinaire? C'est parce qu'en réalité, on est venu pour ça, dit le Ben Yishraï. C'est ce qu'on appelle le birur anitzotzot. L'éclaircissement, le tri des nitzotzot, du bien et du mal qui se sont mélangés dans la faute originelle de l'arbre du bien et du mal, qui sont tombés dans la matière. Et notre but à nous, justement, c'est de séparer l'avdil ben kodesh, le chol ben or, la choshech, ben israël, ben yom hachivi, le shechil, le meya amassé, pour qu'on puisse séparer ces deux dimensions, parce que pour savoir. Trouver le bien du mal, il faut les séparer. Et c'est ce qu'il propose de faire. Je sais que dans la matière, on ne prend rien avec nous, mais je sais qu'on peut sanctifier la matière par le maaser. Et donc le fait de prendre le maaser, le fait de prélever ce maaser, c'est sanctifier tout ce qui nous reste dans les mains. Et c'est ce que veut faire Yaakov Avinu. On ne le voit pas profiter de sa richesse. Par contre, ce qu'on voit de lui, c'est qu'il a préparé tous ses animaux. Et si tu veux savoir quelque chose de profond, je finirai avec ça. Les animaux, les 515 animaux là, qu'il a donné, selon certaines dates, donné 515 animaux qui correspondent aux 515 moussafines de l'année. Okay, tu sais pourquoi il les a donnés à Esav? Alors, il faut savoir une chose. J'ai lu il y a très longtemps dans un livre très profond sur la paracha qui disait que les 515 têtes d'animaux qu'il a données à Esav, c'est pour que Esav les emmène avec lui parce que Yaakov les a bénis, ces animaux. Et en quoi les a bénis? Qu'ils soient producteurs. Qu'ils se croissent et se multiplient à l'infini. Et ces animaux-là, écoute bien, ont été donnés à Esav pour le shalom. Donc en réalité, c'est un gage de shalom. Mais si c'est un gage, ça veut dire que tu dois le récupérer. Les Chachamim disent, quand Yaakov a donné ses animaux à Esav, il a prié que chaque mâle et chaque femelle se multiplient, pour que quand viendra à la fin des temps le Melech HaMashiach et qu'il y aura le Bet HaMikdash, une des conditions de la fin des temps, c'est de l'arzir et ta korbanot. Donc tu auras les korbanot. On sera tellement nombreux que peut faire les korbanot, ratat, pour réparer les dernières fautes qu'on a fait à la fin des temps, et surtout korban todat, korban tabid, korban ben arbaim, vechen al zaderer korban ola, tous les zvahim qu'on avait à faire, il va en falloir des animaux. Et le Melech HaMashiach, qui est en lui le netzot d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, il dira à Esav, aux nations du monde, Vous pouvez nous donner vos moutons ? C'est pas à toi, ça. C'est à nous. Non, c'est pas à vous. Tous les moutons que vous avez, tous les animaux que vous avez, vous ont été donnés en gage de Yaakov chez vous. Mais comme ils n'étaient pas propres au korban quand Yaakov les a donnés, les enfants qui vont naître pendant ces millénaires, ces animaux qui vont naître, sont tous prêts pour la fin des temps pour qu'on puisse les sacrifier au Beth Amikdash. Et la reine Yaakov, il demande la richesse, non pas pour être riche, on ne mange pas avec deux fourchettes, mais il est conscient que la richesse dans ce monde ouvre les portes à beaucoup de mitzvot pour faire grandir le nom de Dieu sur terre, comme nous qui voulons construire ce binyan ici. Si Dieu veut à tête vave, si Dieu veut qu'on fasse grandir le nom de Hachem dans toutes les villes, qu'on ait les rabbinis francophones, à Harish, à Natania, à Jérusalem, si Dieu veut qu'on puisse avoir le plus de moyens possibles pour faire grandir le plus de Torah possible, et que juifs de France comme juifs d'ailleurs, tous ensemble, comme nous ici, si Dieu veut, on aura les Chayalim avec les Madim qui viendront étudier avec les Haridim pour montrer que Bémet, il n'y a que de l'amour entre nous, eh bien, on réussira quelque chose de grandiose, parce que Iman Kemar en Torah, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah, mais s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Kemar. Baruch, hein ? 15 ans, Mashouach, je ne veux pas rentrer là-dedans, ah, bah, allez, c'est 515 korbanot de l'année. Baruch Adonai, l'Olam Amen. Amen. Grande Hatzlacha, Alia, une bonne santé, une longue vie pour Atur Chaya Bat Beya Shel Bia. De la part de tous ses enfants, une grande réussite. Ezrat Hashem et une belle Alia surtout. Amen. Amen.